Bienvenue sur CFM Cahors, c'est l'heure de votre mag. En deuxième partie d'émission, on vous emmène du côté de Vilsec pour visiter le musée de Pierre Andrès. Un musée pour s'amuser, c'est comme ça que l'on dit. Mais d'abord, dans un premier temps, eh bien vous savez quoi ? Mais oui, c'est la période des festivals, c'est ça, c'est les vacances. Et c'est même les vacances dès ce soir. Et donc rendez-vous demain pour les jours du Bordu, tout simplement, à Cajar. Et c'est le premier invité que nous avons dans votre mag. Bienvenue, vous êtes sur CFM Cahors. Il est de retour, le festival du Bordu qui va se dérouler du 8 au 10 juillet prochain. On va vous dévoiler un petit peu de la programmation sans trop vous en dire, parce que finalement il faut quand même en découvrir par vous-même, mais vous ne serez pas déçus. Et nous sommes avec le metteur en scène de la compagnie organisatrice de ce festival, la compagnie de la Bête à Cornes. Bonjour Jean Meyer.
Bonjour Yannick.
Le festival du Bordu, deuxième édition, donc ça veut dire que la première s'est plutôt bien passée.
Oui, ça s'est bien passé. On était très contents. Je pense que les gens qui étaient venus lors du festival, tous les retours qu'on a pu avoir, c'était des retours très positifs, en mettant l'accent sur le côté familial du festival, sur le côté abordable par les prix, et puis le fait qu'on mette en valeur et en évidence les artistes locaux, ça a beaucoup plu. Et c'est toujours vrai pour la deuxième édition.
Le principe, alors si on résume, le festival, artistes locaux et abordables.
Voilà, ce sont mettre en valeur tous les artistes qu'on a dans le coin. Donc les artistes qui viennent de le plus loin, ils viennent quand même d'Occitanie, mais tu as un artiste qui vient du Lot-et-Garonne et tu as deux artistes qui viennent de Toulouse. Sinon, tous les autres artistes sont soit de Cajar, soit des petits villages alentours.
Voilà. Alors quand on fait une première édition d'un festival, et ça sera pareil aussi pour la troisième édition, on essaye toujours de faire mieux que l'édition précédente. Qu'est-ce qu'il y a de mieux alors cette année ?
Cette année, on a essayé de proposer des spectacles pour les enfants aussi, parce que l'an dernier, on n'avait pas pensé forcément à ça. Et on s'est dit, c'est bien que dans un festival des arts vivants, et un festival tout public, mais pour qu'il soit tout public, il faut aussi qu'on rejoigne tous les publics. Donc cette année, le samedi après-midi et le dimanche après-midi, il y a deux spectacles sous chapiteau qui vont être proposés aux enfants. L'idée accessible, c'est deux spectacles qui sont proposés pour le prix de 6 euros. Et en plus, les enfants, à l'entrée, se verront offrir un goûter. Donc on a vraiment envie qu'ils se régalent, au propre comme au figuré. Il y aura un spectacle de magie et un spectacle de marionnettes. Et ces deux mêmes spectacles, pour les gens qui ne peuvent pas venir le samedi, se produiront également le dimanche après-midi à partir de 15h30.
Alors, sans oublier évidemment, avant de rentrer d'ailleurs dans le détail de ces spectacles, le Festival du Bordu, c'est aussi des ateliers, c'est aussi des exposants. Et cette année, alors, qu'est-ce que vous nous avez prévu ?
Alors, cette année, on a une maison d'édition qui vient de s'installer à Cajar, les éditions Persium. Et cette maison d'édition publie beaucoup de livres sur le territoire, sur le Lot, dans son catalogue, a aussi beaucoup de théâtre. Et puis, entre autres, il y a une artiste qui vient aussi de publier chez Tertium un livre d'aquarelle sur le village de Cajar. Donc, il y aura tout ça qui sera présenté sur le stand de Tertium. Et il y aura aussi des auteurs qui seront présents pour faire des dédicaces. Et entre autres, l'artiste, la Nikou, qui a fait son livre sur Cajar d'aquarelle, qui sera présente. Voilà. Puis, on essaye cette année d'être encore plus virtueux que l'année dernière, d'essayer d'être vraiment zéro déchet. C'est pas simple, mais il y aura donc l'association Zéro Déchet de Cajar qui sera là aussi pour nous épauler, pour expliquer un peu aux gens la démarche du zéro déchet.
Donc, ça veut dire, par exemple, pour tout ce qui est alimentaire, la restauration, etc., c'est de la vaisselle réutilisable, c'est ça ?
C'est de la vraie vaisselle. Voilà, de la vraie vaisselle. On a récupéré des assiettes, des couverts pendant toute l'année. Les verres, plutôt que chaque festival imprime ses verres en plastique, ça fait beaucoup de plastique. En fin de compte, le conseil départemental a mis en place une initiative qui est intéressante, qui est gérée par Écosystème. On récupère des verres qui sont à l'effigie du conseil départemental, qui sont des verres réutilisables à la fin du festival. On les lave, on les ramène à Écosystème et ça servira pour un autre festival. Donc c'est vraiment une démarche zéro déchet. Et sur cette démarche particulière, on est aidé par la Maïf qui aide vraiment toutes les initiatives qui vont dans ce sens du zéro déchet et de tout ce qui est économie durable, etc.
Deux endroits à Cajarc pour participer et assister aux animations, festivités de ce festival du Bordu. Il y a au Théâtre de Verdure et sous le chapiteau. Et quoi qu'il arrive, alors déjà les spectacles au Théâtre de Verdure, ce sont des spectacles qui se font au chapeau.
Voilà, la plupart des spectacles se font au Théâtre de Verdure, se font au chapeau, parce que c'est très très compliqué de gérer les entrées sur le Théâtre de Verdure sur le site, même si le chapiteau est à côté, hein, mais sur le site du Théâtre de Verdure, ça serait très compliqué, il faudrait mettre des barrières, tout ça, puis c'est pas dans l'esprit du festival de mettre des barrières partout. Donc, ça veut pas dire que les artistes sont tous payés au chapeau, mais en tout cas, nous, on récupère un chapeau qui nous permet après de pouvoir l'an prochain avoir des sous pour programmer d'autres artistes. Donc tout ce qui est au théâtre de Verdure, il n'y a pas d'entrée, donc les gens participent s'ils le souhaitent au chapeau, alors que les spectacles qui sont sous chapiteau, ce sont des spectacles payants.
Et 10 euros pour les deux spectacles quand même, hein, chaque soir, hein, c'est donc, ça?
Voilà, le vendredi soir, il y a deux spectacles, un spectacle de conte, un spectacle de théâtre, une pièce de théâtre, les deux spectacles 10 euros. Le samedi soir, il y a la grosse tête d'affiche, Bernardo Sandoval et Serge Lopez, qui sont des guitaristes virtuoses du flamenco, qui viennent de Toulouse. 10 euros le spectacle. Donc c'est vraiment abordable. Et tout le reste, c'est au chapeau.
Alors pour le vendredi soir, justement, vous faites venir aussi, alors on parlait d'artistes locaux, et il y a ce conteur qui est là, Michel Galaret.
Oui, oui. Alors Michel, voilà, il va bien sûr nous embarquer dans ses histoires et dans ses contes en première partie de soirée. Voilà, l'an dernier Michel avait conté aussi. C'est un artiste qui est très très apprécié de Cajarc. Bien sûr, il est de Cajarc, Michel, mais de toute la région. Et puis on trouve que c'est bien aussi d'offrir ce spectacle aux gens, parce que bon, les gens, le conte, c'est pas forcément quelque chose qu'on va voir très souvent, et de proposer ce genre de spectacle, nous, ça nous fait très plaisir. Et puis après, la compagnie de la Bête à Cornes, cette année, l'an dernier, nous l'avait pas fait, la compagnie de la Bête à Cornes joue un de ses spectacles. Ça ne se fera pas forcément toutes les éditions, mais cette année, on avait envie de présenter aussi le travail de la Bête à Cornes, un travail théâtral.
Pour manger à la table des girafes, il faut avoir un long cou, et puis un long titre aussi, apparemment.
Des titres plus courts, même.
Ouais, c'est clair. Ça parle de quoi, cette pièce de théâtre?
Alors, c'est l'histoire de deux vieux comédiens qui sont morts depuis bien longtemps et qui avant de mourir, vivaient tous les deux dans un EHPAD, dans le même EHPAD. Hein. Et puis, depuis qu'ils sont morts, ils reviennent de temps en temps dans l'EHPAD. Et puis, il y a quelques résidents de l'EHPAD qui ont la chance de les voir. Et un des membres du personnel aussi. Et puis, ils reviennent et ils ont envie de monter un spectacle avec ces gens-là. Donc, est-ce que ça se fera? Est-ce que ça se fera pas? Est-ce que tout est évident dans la vie? Donc, d'où le titre, hein, pour manger la table des girafes, il faut avoir un coup. C'est évident, mais est-ce que tout est aussi évident que ça dans la vie? Donc, voilà. En tout cas, c'est un spectacle résolument comique sur un sujet qui, au départ, pourrait paraître tragique. Hein. C'est l'histoire de deux morts qui viennent se retrouver à l'EHPAD pour essayer de répéter avec des gens. Mais c'est vraiment très marrant. Voilà.
Ouais. Et puis c'est toi qui as fait la mise en scène, hein, je
le précise. Et qui écrit le texte aussi.
Donc voilà. Le samedi soir, on en a parlé un petit peu. Alors il y a déjà un concert de flamenco avec Serge et Bernardo.
Oui. Et après il y a une super soirée rock après. Ouais.
Voilà. Et puis à 22h30, c'est ça,
oui.
c'est le théâtre,
oui,
avec Zone Grise.
Oui. Donc là, ça va être super, ça va être un peu tard le soir, donc avec le jour qui se sera couché, puis une musique super, super, ce sont des gens très talentueux et qui tournent bien dans la région, et on espère que qu'ils vont faire danser le public et que les gens vont se régaler.
Et puis toutes les bonnes choses ont une fin le dimanche soir. Comment vous comptez clôturer le festival, Jean Meyer?
Alors, on compte clôturer. Donc, dans l'idée de promouvoir aussi les artistes locaux, qu'ils soient jeunes ou qu'ils ne le soient pas, on fait passer, juste avant le spectacle de la soirée, hein, le groupe folklorique de Cajarc. Ça nous fait très plaisir. Ils vont venir faire quelques danses. Hein, les bourrelous, ils viennent danser. Ils viennent présenter 3, 4, 5 danses. Donc ça, c'est vraiment le terroir. Et ça nous faisait plaisir de les mettre en avant. Et puis, juste après, il y a un groupe, le duo Fantastique, qui va animer avec un animateur de danse, en plus un baltrade. On espère que les gens seront nombreux, donc il y aura un animateur qui va apprendre les danses aux gens, et après on va se régaler, on va danser ensemble jusqu'au bout de la nuit, j'espère.
Donc, vous avez bien compris le truc, c'est que si effectivement vous ne savez pas danser les danses traditionnelles, bah, il n'y a pas d'excuse parce que ce n'est pas un problème du tout.
Il y a une personne qui est là que pour apprendre les danses.
Alors, juste un petit truc, Jean Meyer, qui me fait bien marrer, c'est dans le texte de présentation du groupe de danse folklorique, où vous marquez « a pour but de faire connaître et revivre les anciennes danses de notre belle région, le Lot ». Voilà, donc oui. C'est même pas notre département, le Lot, c'est le Lot, c'est la région,
oui,
quoi.
La région, bien sûr.
Ah, non mais alors, on en est fiers, hein. Non, c'est clair. Bon, bah, très bien, voilà. Puis évidemment, tous les jours, on mange aussi, il y a de la buvette, il y a donc des expositions. Je sais que l'année dernière, il y avait aussi des expositions de peinture, c'est encore le cas.
Alors je tiens à en parler. Il y a des exposants, il y a des arts plastiques, peintres, sculpteurs, collagistes. Il y a aussi, alors toute l'expo s'appelle Expo Récup Art, parce que tout est fait avec du matériel de récupération. Il y a aussi une personne qui utilise différents matériaux de récupération pour faire des petits objets. C'est très, très, très joli. C'est très pareil, ce sont des personnes très talentueuses. Donc, et puis, on aura la chance aussi d'avoir quelques œuvres d'Alain Priard, qui est un artiste bien connu sur Saint-Cyr et sur Cajard, et qui présentera ses œuvres. Donc, on espère. Et puis, il y a une petite surprise, c'est que les gens, s'ils le souhaitent et s'ils veulent participer à Tombola, ils pourront gagner l'œuvre d'une artiste. Qui sera très très belle œuvre. On a essayé de créer des petites surprises à droite à gauche. Et pour revenir et pour finir sur les repas, tous les repas sont préparés par nos soins avec des bons produits achetés à Cajard. Donc on espère que les gens se régaleront.
Et puis à noter, qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Bah oui, que ce festival n'existerait pas aussi sans les bénévoles, et j'imagine que vous en recherchez encore.
Complètement. Non, on est presque au point là sur les bénévoles.
Ah, c'est une bonne nouvelle.
Donc on est presque au point. Et puis après, il existe aussi grâce aux financeurs qui nous ont aidés. Et entre autres, bon, bien sûr, les financeurs institutionnels, mairie, conseil régional, conseil départemental, mais aussi l'aide énorme de beaucoup, beaucoup de commerçants de Cajard. Et je n'aurai de cesse de les remercier. Vraiment, ils nous aident beaucoup, beaucoup pour réaliser ce festival. Donc c'est super.
Le Festival du Bordu, deuxième édition à Cajard, les 8, 9 et 10 juillet prochains. Vous allez sur la page Facebook de la Compagnie de la Bête à Cornes pour avoir plus d'informations. Et puis surtout, on vous attend sur ces 3 jours. Et aucune excuse, ce qui est vraiment bien, et on le répète, et on le dit ici aussi sur CFM, le prix est vraiment, c'est même plus un problème pour aller voir un spectacle, parce qu'il y en a vraiment pour tous les budgets. Et en plus, c'est à tout petit prix et de grande qualité. Et ça, c'est vachement bien. Merci Jean Meyer, et puis au mois de juillet, et puis on espère une troisième édition en 2023.
Ben oui, on l'espère aussi. Merci de nous avoir donné l'antenne.
Un musée pour s'amuser, c'est ce qu'on nous promet. C'est à côté de Cahors, c'est à Vilsec si vous ne connaissez pas, c'est le musée Pierre-André. Alors qui est Pierre-André et pourquoi ce musée est fait pour s'amuser? Eh bien nous allons le savoir avec Gilles André qui est avec nous. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Alors, d'ailleurs, je dis André, mais il y a un S. Est-ce qu'on prononce le S?
C'est Andrés. Oui, ça
c'est
se prononce Andrés.
Alors, j'imagine que vous êtes de la famille Agile. Pierre, pardon.
Je suis son fils.
Son fils, voilà. Alors, parce qu'il va pas falloir que je me mélange entre Pierre et Gilles dans l'interview. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui était votre père?
Alors, mon père est d'origine alsacienne. Et il a été déplacé pendant la guerre, parce qu'il était sur le bord du Rhin. Il s'est retrouvé donc dans la région de la Dordogne, et puis il a fait un brevet élémentaire qui fait qu'il est devenu instituteur dans le Lot. D'où la raison pour laquelle il était très attaché au Lot. Et alors quand il a été instituteur, il y a un prof de dessin qui trouvait qu'il avait des dons artistiques, donc il a fait les beaux-arts à Lyon et à Paris, et les beaux-arts peinture, mais comme il aimait beaucoup la menuiserie, il a toujours fait des objets en bois, des objets, des placards chez nous, etc. Donc voilà. Mais il était instituteur dans sa profession de tous les jours.
Mais c'est lui qui l'a créé ou c'est vous qui l'avez créé pour lui rendre hommage?
Le musée, c'est moi qui l'ai créé, enfin avec mon épouse. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il a, quand il était à la fin de sa carrière, il y a une prof de maths qui lui a demandé de créer des objets qui donnent aux enfants la notion d'espace et du temps. Donc il est parti de l'idée de la boule qui roule sur des plans inclinés, Donc il a commencé à faire des objets avec des boules qui roulent, puis après il s'est mis à faire des machines avec des possibilités de remonter les boules, donc quelque chose de très interactif, puisque ça avait au début une visée pédagogique, puis après c'est resté pédagogique, mais c'est devenu aussi ludique, c'est artistique, parce que ces machines ont été exposées dans des musées d'art, le musée d'art moderne à Paris en particulier, et qui ont aussi des aspects techniques qui intéressent les ingénieurs, parce qu'il y a des astuces pour remonter les boules, ou pour les faire descendre, etc.
C'est ça, les machines singulières dont
voilà,
vous parlez.
C'est ce qu'on appelle les machines singulières. Donc il a fait ça à la retraite, il a commencé dans les années 75-76, donc il est né en 2022, vous voyez, il était déjà relativement, il avait 54 ans, quelque chose comme ça. Et c'est là qu'il s'est lancé dans ses créations, et il a fait en France, et à l'étranger, un grand nombre d'expositions, au moins plus de 100. Et il y a des machines qui se trouvent en particulier en Suisse, à Winterthur, il y en a 18 qui sont dans certaines très grandes. Il y en a en Allemagne, il y en a à la Villette, à l'espace des enfants de la Villette, il y en a à Vulcania, à l'espace des enfants de Vulcania, enfin il en a fait pas mal, et qui sont exposés dans des musées. Et comme il était dans le Lot et que moi il me restait des machines qui restaient dans l'usine où il travaillait, j'ai décidé de créer un musée dans le Lot. Voilà.
Donc c'est un héritage que vous... C'est un héritage que vous partagez, quoi.
Pardon ?
C'est un héritage que vous partagez.
Voilà.
Ça se fait dans quel local ? C'est pareil, c'est un local qui lui appartenait ?
Non, c'est moi qui ai acheté une grange. J'ai acheté une grange, je l'ai fait refaire, j'ai refait la toiture, on a refait les sols, on est en train de refaire les joints, on est en train de mettre de l'électricité. Il y a 300 mètres carrés d'exposition, là.
Alors, ça fait combien d'objets qui sont représentés dans ce musée ?
Il y en a une quarantaine.
Ah oui, d'accord.
Une quarantaine, ça dépend, parce qu'il y a des petits objets, mais il y a des machines qui font... Il y a un oiseau, par exemple, il fait plus de 2 mètres de haut, quoi.
Et alors,
c'est un oiseau, vous balancez, il bat des ailes.
Et alors, vous dites que c'est un musée qui amuse autant les petits comme les grands. Alors, autant, effectivement, les petits, on veut bien vous croire, mais comment les grands peuvent s'amuser aussi avec ces objets ?
Eh bien, je ne sais pas, il y a une espèce de magie. Mon père racontait toujours qu'il était ravi parce qu'un jour, il avait une grand-mère écartée du pied un enfant pour pouvoir jouer.
Effectivement.
Et voilà, vous prenez au jeu, hein. Vous avez des manivelles, vous montez les boules, ça fait du bruit, ça a un certain bruit, c'est le bruit des boules sur le bois, donc c'est sonore. Donc il y a même un musicien qui s'appelle Steve Waring, qui faisait des spectacles, lui il a 35 machines, lui. Et il faisait des spectacles avec des machines de Pierre Andrès, et des spectacles qui s'appelaient « Fais voir le son », par exemple, ou... voilà.
Et donc dans ce musée, même j'ai envie de dire, c'est le résultat, je peux dire, de la retraite de votre père. C'était une sacrée drôle de retraite quand même.
Ouais, hein. C'est ça. Oui.
Parce qu'apparemment il a aussi parcouru le monde avec ses œuvres.
Voilà, il a parcouru. Alors comme il était alsacien, ce qui explique pourquoi il a beaucoup de choses en Suisse allemande ou en Allemagne. D'accord. Et on a encore fait faire des copies là pour un musée un peu technique, le Fénot à Wolfsburg. Donc on a fait 5 copies, ils ont créé un espace enfant et on a fait 5 copies des machines de mon père.
Comment ça s'entretient, ces objets
Quand ça se casse, on répare, mais ils sont assez costauds quand même. Hein.
Mais alors qui les fait ? Qui répare ? Alors c'est vous finalement ?
Actuellement c'est moi, ou je demande à des menuisiers, oui.
D'accord.
Voilà.
Et comment
je prends des cours de menuiserie en ce moment.
Bah oui, j'imagine du coup. Et comment lui, il imaginait les objets ? Quel était son travail ? Est-ce qu'il prenait selon ce qu'il avait autour de lui, selon ce qu'il pouvait trouver ? C'est-à-dire dans le sens où il pouvait entasser des tas de morceaux de bois, etc., en se disant « un jour j'en ferai quelque chose », ou il les créait spécialement pour un objet parce qu'il dessinait sur plan ?
Alors, il ne dessinait pas sur plan. Il ne faisait pas de dessin, il ne faisait pas de projet. Il faut savoir que c'est un homme qui avait une imagination très très importante. Il avait un monde imaginaire extrêmement important. Et donc il partait d'une idée qu'il avait dans la tête, il prenait du bois, et avec ça il le travaillait, et il en faisait des machines. Alors il y en a qui ne marchaient pas, donc il jetait. Mais en disant que si ça marche, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne. En plus c'est assez beau quand ça fonctionne. et il y avait un rapport avec la beauté et le fait que ça fonctionnait bien dans ses œuvres. Donc voilà, mais il imaginait les choses, donc il avait une grande imagination quand même.
Votre
ça étonne toujours les gens.
Ouais.
Il y en a qui disaient qu'il travaillait comme un illettré.
Ah oui, effectivement, d'accord, oui, parce que il faut en vouloir quand même de le faire de tête, hein, parce que c'est un peu comme ça, si je comprends bien, c'est de tête. Votre père disait justement que pour évoquer son travail, il se réfère au monde d'Alice au pays des merveilles.
Oui.
En fait, c'était un gamin, votre père.
Enfin oui, c'était quelqu'un qui vivait dans l'imaginaire. Je sais pas si on peut dire que c'était un gamin, mais il avait une grande distance avec les gens. Hein. Il pouvait être très pince sans rire, et en même temps très très humble, très plutôt discret. Bon, voilà. Mais alors Alice au pays des merveilles, parce qu'il en parle, parce que au début il faisait des objets où les boules descendaient. Et puis un jour, il s'est dit, comme Alice, on va prendre le bon sens à contresens, donc on va faire remonter les boules. Et là, il a trouvé des mécanismes pour remonter les boules. Alors, il y a 5-6 types de mécanismes dans ces machines pour remonter les boules. Donc, si vous voulez, l'action du jeu, c'est de faire monter les boules et puis de les faire redescendre dans un parcours.
D'accord.
Voilà.
Votre musée, il est ouvert depuis quand ?
Depuis 3 ans.
D'accord.
Et on a ouvert, on a fait une petite inauguration en 2019, avant l'année du Covid. Voilà.
D'accord.
Alors il est pas ouvert toute l'année, quoi. C'est ça le problème. Moi, je travaille encore.
Et vous comptez organiser aussi d'autres choses en parallèle, hein, pour faire vivre un peu ce musée. Et notamment, alors j'ai entendu parler d'une exposition de quelqu'un que l'on connaît bien ici, hein, qui est Christian Verdun.
Oui. Oui, il va exposer des bois, je crois, des bois colorés. Il y aura une inauguration début août. Oui.
Et puis
c'est pas la première fois d'ailleurs. Chaque fois quand on ouvre un été, on prend un artiste qui est un peu dans l'esprit de mon père et qui expose à ce moment-là ses œuvres. Oui.
Mais votre père et Christian Verdun se connaissaient ?
Oui. Ah oui, Christian Verdun, oui, parce que mon père était à l'école d'application à Cahors. Et Christian Verdun était prof d'art plastique à l'école normale, et donc il se connaissait très bien. Même Christian Verdun a des machines de mon père, que mon père lui avait donné d'ailleurs.
Et quel genre de relation ils avaient alors en dehors, une fois que le parcours scolaire, si je puis dire, de votre père s'est terminé ?
Une fois que c'était terminé, je sais qu'ils se voyaient de temps en temps, parce que j'ai retrouvé chez mon père des œuvres de Christian Verdun dédicacées. Donc je sais qu'ils se voyaient de temps en temps, mais parce que mon père était parti en 76, 77, il est parti à Paris, puis après à côté de Saint-Étienne, où il a occupé une usine désaffectée pour faire ses œuvres.
Écoutez, on vous invite tous à venir découvrir ce musée singulier de Pierre Andrès. C'est au lieu dit Péjusquila à Vilsec. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est à une vingtaine de minutes de Cahors. On peut y passer combien de temps dans ce musée avec des enfants ?
Vous pouvez passer une heure sans problème. Hein. Une heure, même une heure et demie, ça dépend. Il y a des enfants qui demandent à revenir d'ailleurs.
Ouais, on imagine bien.
Une heure et demie, il y en a même qui passent l'après-midi. Mais...
Donc le musée de Pierre André au lieu d'IP Jusclas à Vilsec et qui nous était présenté par son fils Gilles Andrès. Merci beaucoup d'être intervenu, Gilles Andrès.
Merci de vous être intéressé à ces œuvres.
Pas de rediffusion du MAG ce soir pour la simple et bonne raison qu'il y a tout simplement une émission à partir de 17h depuis le festival Pause Guitare Albi où nous sommes partenaires, mais vous pourrez évidemment réécouter cette interview en podcast sur cfmradio.fr, mais également ce soir à 21h30. Voilà, c'est la fin donc de ce magazine. On reste ensemble évidemment en musique si vous le souhaitez. Passez une excellente journée à l'écoute des programmes de CFM et puis profitez du soleil ce soir, ça y est, c'est enfin les vacances, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le son Esprit Rock continue. À bientôt.